Merci à toutes d'être venues.
Tu es parmi les femmes.
Ouais, merci. Du coup, David Melman, éditeur au Forge de Julquin, et Claire Duvivier, autrice pour son premier roman, Un long voyage, avec nous ce soir. Donc, pour rappel, sur le principe des rencontres à lire les images, c'est pas on parle et ensuite vous posez des questions, c'est que vous êtes vraiment invité à poser vos questions au fur et à mesure et à ce que ça crée une discussion collective tout au long de la soirée. Peut-être avant de passer au début des questions, je vais peut-être juste les inviter à nous expliquer en fait comment ils en sont venus à publier ce livre et à nous raconter un petit peu cette genèse-là. Et ensuite, go, s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai, mais j'espère que vous en aurez de votre côté et qu'on avancera comme ça. Du coup,
Vas-y.
D'accord. Alors, du coup, la question c'est comment j'ai été amenée à publier chez David un voyage. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que de métier, je suis éditrice, en fait. Je travaille dans une autre maison d'édition qui s'appelle Asphalt. Et effectivement, j'écrivais de mon côté, mais c'était quelque chose dont je ne parlais pas du tout, ou pas trop. Et j'étais sur ce projet, notamment, et d'autres. Hein, et ça avançait bien, mais j'avais un peu de mal à débloquer certaines choses. Et un jour, je me retrouve en salon, au salon Étonnant Voyageur avec David. On se retrouvait souvent sur les salons, en général on était voisins de stand, on avait l'habitude de discuter un peu de tout et de rien. Et à un moment, au débeauté, il me dit « Ah mais Claire, est-ce que toi tu écris par hasard Je ne sais pas si on en a déjà parlé. » Et comme d'habitude, quand on me pose la question, je suis « Non, pas du tout, certainement pas. » Mais là, comme j'étais un peu en train d'y penser, que j'étais un peu immergée dedans, je lui ai dit « Bah oui, en fait je suis sur quelque chose et je pense que je vais bientôt finir. » Et du coup, il m'a dit « N'hésite pas à m'envoyer quand tu auras fini. » Bon, en fait, c'était la simple politesse d'éditeur. Je pense qu'intérieurement, il devait se dire « Ah, non !» Mais très gentiment, il m'a dit « On voit pas quand tu auras fini », ce que j'ai fait. Et heureusement, ça lui a plu. Et du coup, peu de temps après, on s'est mis à travailler ensemble sur le texte.
Ouais. Ouais. À aucun moment, tu as envisagé de l'éditer toi-même?
Ah non, dans tous les cas, c'était pas du tout un texte pour Asphalt. Et puis même, enfin, j'avais vraiment besoin d'un regard extérieur, en fait, quoi,
c'est
ma
On n'entend pas. C'est quoi votre maison d'édition?
Asphalt.
Quoi?
Asphalt.
Ça publie quoi?
On publie de la littérature contemporaine, on a beaucoup de Français, d'étrangers. Derrière vous, vous avez notre roman de la rentrée qui s'appelle Demain la Brume. Tu le vois. Je le connais très bien. on a pas mal d'auteurs sud-américains, quelques Français, on a une collection de recueils de nouvelles noires.
Il est dans les
étagères. Qui sont autour de villes. Voilà, donc c'est pas du tout une production imaginaire ou fantasy. Ouais. Même si on a quelques titres qui lorgnent un peu du côté de l'imaginaire. Mais dans tous les cas, je ne me voyais pas le publier moi-même, en fait. Il y avait un mélange déjà qui ne me plaisait pas.
Et en fait, j'aime bien ta présentation des choses, parce que en fait, c'est la vérité. Et c'est mieux de commencer par la vérité avant d'avoir la légende. Voilà.
Vas-y, dis la légende.
Non, je n'ai pas... Non, mais c'est bien, parce qu'en fait... Il faut qu'on vous dise quelque chose, c'est que c'est notre première rencontre en librairie autour de ce texte. Parce que c'est un texte qui est sorti au printemps. Et Claire était invitée un peu partout et malheureusement, presque enfin, toutes les rencontres et tous les salons ont été annulés. Donc ce livre commence vraiment sa vie grâce à vous, ici. Donc merci à Lulu aux images de nous inviter. Et en fait, alors, c'était pas complètement de la politesse quand je lui ai dit de m'envoyer son texte. C'est que, en théorie, dans l'édition, la source principale des manuscrits, c'est censé être ce qu'on appelle la boîte à manuscrits, c'est-à-dire ce qu'on reçoit par la poste. Alors, au Forge de Julquin, je reçois que en numérique. Donc voilà, généralement, c'est la source principale des textes. Et en fait, j'ai publié beaucoup de textes qui sont arrivés par cette voie-là, par la poste, mais je me rends compte effectivement qu'on publie pas simplement des textes, on publie aussi des personnes. C'est-à-dire, quand on rencontre un texte, après il faut rencontrer l'auteur avant de signer le texte, parce que ça nous permet de savoir comment est la personne, si elle a envie de retravailler son texte ou non, si elle est porteuse d'autres textes. Parce que pour une maison d'édition, c'est plus simple, c'est plus exaltant, stimulant d'avoir quelqu'un qui va chercher à publier régulièrement. qui n'est pas l'œuvre, enfin la personne d'une seule œuvre. Et donc c'est pour ça que moi je rencontre toujours les gens, et avec l'expérience je me rends compte que les œuvres sont souvent des projections des personnes. Ce qui m'amène parfois à réfléchir en me disant, telle personne que je connais, qui écrit beaucoup de nouvelles mais qui n'a jamais écrit de roman, c'est quelqu'un qui est à la fois intelligent, subtil, modeste, et ça m'intéresserait de travailler avec cette personne. Et c'est vrai que connaissant Claire comme éditrice, je me disais, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un de cultivé, quelqu'un qui est assez précise, et c'est aussi quelqu'un qui a un vrai caractère. Donc ça, c'est, je me disais, ça peut être intéressant. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y avait une dimension de risque dedans, parce que on dit souvent qu'éditer, ça consiste à dire non à ses amis. Et en fait, je crois que presque tous mes amis m'ont envoyé à un moment ou à un autre un manuscrit. Et j'ai dit non à tout le monde, voilà. Donc en fait, je dis non généralement aux gens que je connais. Ça se passe généralement bien, mais c'est vrai qu'il y a toujours un moment de gêne où les gens qu'on connaît se disent « parce qu'on se connaît, ça sera plus facile ». Et en fait, c'est pas plus facile, et parfois c'est plus difficile, parce que justement parce qu'on connaît la personne, on n'est pas dans une relation concentré sur le texte, on est concentré sur autre chose. Et l'intérêt avec Claire, c'est qu'effectivement, on se connaissait professionnellement, mais on n'était pas des amis proches ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais j'avais quand même un moment où je me suis dit, je vais être très embêté si je lui dis non. Et surtout, je me disais, il y a quand même de fortes chances pour que je lui dise non, parce que comme elle édite parfois du polar, parfois de la littérature assez sombre, assez contemporaine, et que moi, je n'édite pas ce type de texte, ben en fait, elle va m'envoyer quelque chose qui ressemble à ce qu'elle édite. Et en fait, elle m'a envoyé un texte, un long voyage, qui ne ressemble pas du tout à ce qu'elle édite. Enfin, après, c'est débattable, c'est-à-dire, voilà, ça ressemble parce que c'est de qualité, voilà. Mais en termes de genre de texte, c'est très très différent. Donc finalement, j'étais rassuré, j'ai poussé un grand ouf. Et après, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, comme elle est éditrice, elle comprend le processus éditorial, et donc on a travaillé en bonne entente. C'est-à-dire, voilà, le texte était déjà très 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 bien avant qu'on travaille ensemble dessus. Et Claire y a apporté d'elle-même quelques corrections, mais pas immenses. Et donc ça s'est très bien passé. Ça s'est passé au-delà de nos attentes, que ce soit esthétiquement sur le texte et après sur la réception du texte. C'est un texte qui a été très très bien reçu par les lecteurs, par les libraires, par la presse. Là, il a gagné le prix du meilleur roman de fantasy francophone de l'année. Il est sur les listes de presque tous les prix en littérature de l'imaginaire. Et Claire est invitée maintenant dans tous les salons jusqu'en juin de l'année prochaine, quoi.
Oui, quand ils n'ont pas annulé.
Oui, quand ils n'ont pas annulé.
Non, mais... c'est un roman qui est sorti une année particulière. Effectivement, étrangement, ça aurait pu être très compliqué. Et au-delà de nos espérances, ça a quand même été très bien accueilli grâce aux libraires qui l'ont défendu.
Et ça a été, pour nous, ça a été un énorme coup de cœur. Et peut-être une des plus belles lectures qu'on ait faites après le confinement. Donc, c'était du bien de lire un beau livre d'imaginaire après cette année compliquée, justement. Donc, peut-être qu'il arrive au bon moment quand même.
C'était ça, voilà.
D'ailleurs, peut-être que parmi vous, vous êtes peut-être plusieurs à l'avoir déjà lu. Non, pas trop. Si, un peu. Qui l'aurait déjà lu?
Moi, je l'ai lu, mais il y a longtemps.
Enfin, ok. Voilà.
Il ne faut pas qu'on dévoile trop longtemps.
Ouais,
on va pas trop dévoiler.
Et du coup, est-ce que peut-être en dire quelques mots de cette intrigue sur ce livre
Oui, alors le roman Long Voyage, c'est l'histoire de Liès, donc le narrateur. On devine que c'est plutôt un très vieil homme qui va raconter en fait l'histoire de sa vie. Il la raconte à une certaine Gémétous, à qui il s'adresse tout au long du livre. Et il va raconter notamment les liens qu'il a eus avec une certaine Malvine Zelina de Félarasi, qui était une aristocrate impériale, pour laquelle il a travaillé, qui était une figure très importante de sa vie. Donc dans un long voyage, il va raconter un peu sa jeunesse, comment il l'a rencontrée, comment en grandissant il a été amené à devenir son secrétaire, puis son bras droit, comment ils ont quitté ensemble l'archipel où lui est né pour s'installer dans une province où elle est devenue gouverneuse et où elle a eu un poste d'importance, et surtout un événement très particulier qui a eu lieu dans cette province et qui a un peu bouleversé le reste de leur vie à tous les deux. En deux mots.
Il y a un temps précis, des événements ou...
C'est vraiment sur toute la vie de Liès, en fait.
Après, oui, événements une époque, c'est ça que je veux dire.
Ah. Alors non, c'est un monde imaginaire.
Oui, c'est un monde imaginaire, complètement. Oui, ça ne fait pas référence à des événements historiques précis du tout,
non. Non, mais sans faire... c'est dans le passé ou à l'époque moderne, c'est ça que je veux
un
dire.
Un monde imaginaire.
D'accord.
C'est à partir de quel âge
pour... Je ne sais pas.
Moi, mes deux filles l'ont lu, sachant que celle qui a 14 ans, ça a été assez facile pour elle. Celle de 11 ans, il y a des choses qu'elle percevait pas dans le texte, mais c'est lisible, il n'y a rien de scabreux. Voilà. En tant que parent, c'est toujours quand les gens disent à partir de quel âge, moi je raisonne jamais en termes de complexité, je raisonne en termes de il y a des discussions que j'ai pas envie d'aborder tout de suite. Voilà. Donc,
moi je suis tout à fait d'accord en fait avec toi. Adolescent, collège, lycée, on peut vraiment lire sans aucun problème. C'est vraiment de l'aventure, c'est un monde merveilleux. Il y a ce fantastique en fait qui s'invite dans ce récit. Donc c'est vraiment un voyage assez extraordinaire et qui est tout à fait accessible. Ouais, dès la fin du collège, c'est ça, hein, 4e, 3e, et puis sans limite d'âge derrière.
Ouais, sans limite d'âge.
Ouais, vraiment, sans limite d'âge.
Oui, en plus, c'est un roman d'éducation qui, à certains égards, c'est effectivement le premier roman de Claire, mais il est très achevé dans sa maîtrise de ce genre d'écriture. Donc, en fait, c'est... ce que moi j'essaye d'éditer souvent, enfin un filtre par lequel on passe, c'est de se dire, ça se trouve, un jour ce roman qu'on va publier, il va se retrouver dans la bibliothèque d'un collège ou d'un lycée, et pour une collégienne ou une lycéenne, ça va être un des premiers romans contemporains qu'elle va lire. Et donc en fait, il faut, quand on retravaille le texte, se dire, est-ce que c'est lisible, est-ce que... on n'est pas dans l'entre-soi des gens qui ont l'habitude de lire beaucoup, mais est-ce qu'on a donné les éléments pour que n'importe qui puisse rentrer dans le texte? Et je pense que dans ce roman-là, c'est le cas. C'est-à-dire on peut... la plupart des auteurs francophones du catalogue des Forges rentrent dans ce critère-là. C'est-à-dire ça peut être un premier roman d'adolescent ou de jeune adulte.
Aussi, une chose que j'essaye de faire, ce que j'essaye de faire dans Long Voyage, c'est que ce soit lisible par des publics différents et surtout qu'il y ait des accroches différentes, en fait. Je pense qu'effectivement, un public plus âgé va peut-être plus s'accrocher sur le côté l'histoire de la vie de Liès, notamment quand on arrive dans ces années un peu plus avancées. Je pense qu'un public plus lié à l'imaginaire va plutôt s'intéresser à tout ce qui est événements fantastiques dans la province et leur déroulé. Je pense que des lecteurs plus jeunes, effectivement, 4e, 3e, vont peut-être plus apprécier au niveau de la jeunesse de Liès, son développement, le côté roman d'éducation, roman d'apprentissage. Donc moi, mon idée, c'était vraiment qu'il y ait plusieurs angles d'approche. Donc voilà, c'est...
Ce qui m'a approché, c'est ça, c'est vraiment le côté roman d'apprentissage. Ouais. Pour l'ado qui sommeille encore en bois, vraiment. C'est vraiment ça, moi, qui m'a accroché et qui a fait que j'étais happée, en fait, dans l'histoire. Et je sais que toi, Manon, ça a été totalement autre chose.
Moi, j'aime être sur... Moi, je lis beaucoup de littérature d'imaginaire, mais du coup, j'ai adoré être surprise et découvrir un monde qui sort des stéréotypes qu'on a l'habitude de lire dans cette littérature-là. Et arriver à évoquer une vie et un monde complet en 300 pages, de façon très claire, très cohérente et avec quand même une aventure et du fantastique qui rentre dedans et sans que ce soit lourd à la lecture, j'ai trouvé ça assez remarquable et du coup c'est ce qui m'a, moi, beaucoup marqué sur cette lecture en tout cas.
Après, c'est vrai que pour des nécessités de communication, on dit que c'est un roman d'imaginaire qui est une catégorie qui, en fait, a une vingtaine d'années, c'est-à-dire aujourd'hui, on l'emploie, mais en fait, il y a quelques années, on ne l'employait pas, il y a plein de gens qui ne voient pas exactement ce qu'on veut dire par imaginaire, parce qu'ils pensent qu'on parle d'imagination, mais en fait, presque toute la fiction est fiction d'imagination. Imaginaire, c'est vraiment cette partie de la production littéraire où il y a la science-fiction, la fantasy et le fantastique, voilà, qui sont trois genres littéraires codifiés. Mais le roman de Claire, nous, par nécessité, on l'a mis en imaginaire. Mais je pense que il y a quelques années, on l'aurait mis en littérature générale, parce que pour moi, c'est une forme de réalisme magique. C'est-à-dire, au lieu de se passer dans un monde imaginaire, on l'aurait mis dans une république bananière d'Amérique du Sud, complètement inventée. Et voilà, on aurait pu le recréer comme ça. Mais donc, ça veut dire que, pour moi, en tant qu'éditeur, c'est juste un très bon roman. Mais c'est vrai qu'après, il faut donner des accroches, en fait, et il faut l'inscrire dans le monde pour que un roman et une vie longue, il faut quand même qu'il y ait un point d'entrée dans la conversation collective. Il faut bien qu'à un moment, il rentre. Donc on l'a fait rentrer comme ça. Mais je ne sais pas si toi, tu te posais ce genre de questions, imaginaire, pas imaginaire.
Oui, plus ou moins. Après, moi, que ce soit dans mon travail d'éditrice ou en tant que lectrice, j'ai pas trop d'amour pour les étiquettes, en fait. Moi, je préfère les livres qui sont un peu entre les deux. Je trouve que c'est là que c'est plus intéressant, finalement, d'avoir un pied sur des rives différentes. Et c'était l'idée, effectivement, oui, ça, un long voyage, c'est souvent présenté comme de la fantaisie, et c'est normal, c'est un monde imaginaire, il y a des histoires de nobles, des choses comme ça. Mais l'idée, justement, c'était de prendre aussi tous ces tropes pour les prendre un peu à contre-pied et m'amuser un peu avec. Donc avec le stéréotype du héros orphelin qui n'a rien mais qui va monter dans le monde et devenir roi ou des choses comme ça. Jouer un peu avec les attentes du lecteur, lui faire croire par exemple que Lies au début c'est ce qui va lui arriver alors qu'en fait c'est un tout autre destin qui l'attend. Donc moi j'aime beaucoup l'imaginaire et j'aime beaucoup utiliser les tropes de l'imaginaire. Après je trouve que l'idée d'utiliser ces genres qui sont très codifiés c'est aussi justement de détromper ces attentes là et de les prendre un peu à rebours. C'est plus drôle.
C'est bien comme ça qu'on le présente en fait. Ah, vous aimez la fantasy ? Ah, ce livre est pour vous. Ah, vous l'aimez pas ? Ce livre est aussi pour vous.
Non mais cela dit, un livre comme Le Seigneur des Anneaux de Tolkien ou Bilbo le Hobbit, en fait, il est maintenant présent dans trois rayons. C'est-à-dire, il a différentes éditions. Il est en littérature générale, il est en littérature jeunesse et il est en littérature de l'imaginaire. Donc il y a trois éditions. Bon, on n'est pas encore à la hauteur du Seigneur des Anneaux ou de Bilbo le Hobbit, mais ça veut bien dire que pour des nécessités un peu commerciales, on doit codifier les livres, mais d'un point de vue simplement textuel et intellectuel, ils ont souvent une assiette qui est beaucoup plus grande en fait.
En tout cas, nous, c'est ce qui nous plaît beaucoup à Lille aux Images. On aime bien quand les livres sont sur cette frontière-là, en tout cas. Mm-hmm. C'est ce qui nous plaît le plus. Donc, du coup, cette rencontre avec ce texte,
c'est rigolo ce que vous disiez sur la République bananière, où ça aurait pu se passer, parce que moi, à mon âge, je l'ai transposé un peu là-bas, en fait, par rapport à tout ce que j'ai lu d'auteurs de tous les pays du monde.
Je pense que
moi, j'ai pas 20 ans ou 30 ans, je suis pas sur. Je suis moins sur l'imaginaire que les filles. Et en même temps, j'ai un imaginaire qui fonctionne pas mal, mais j'ai eu effectivement tendance à le poser sur un régime politique. Mmh.
Ben, moi, la première fois que je l'ai lu, c'était quelque chose auquel je pensais beaucoup, c'est-à-dire. Surtout cette réflexion sur. Un gouverneur qu'on attend et tout ça, pour moi, c'était. Alors, c'est pas l'Amérique du Sud, c'était un peu le désert des Carpates, donc voilà. Le sentiment que. Il y a une administration qui est trop lourde, qu'il y a des militaires qui se baladent, il y a des choses comme ça. Mmh. C'est vrai que ça faisait très. Il y a un petit côté Garcia Marquez par moment.
Je pense que tu as dû voir ça aussi parce que je vis beaucoup de Sud-Américains.
Oui,
il y a un côté réalisme magique, on pense à Cent ans de solitude. Donc voilà, il y a des images aussi qui sont convoquées par. Et qui font partie de mon imaginaire aussi, ce qui est la raison aussi pour laquelle on me retrouve.
Disons souvent, ce qui est frappant quand on travaille avec des auteurs, c'est que parfois ils sont beaucoup plus conditionnés par ce qu'ils ont lu, mais qu'ils n'ont pas identifié comme étant important, alors qu'ils sont parfois persuadés que ce qui est important dans leur œuvre, c'est ce qu'ils visent consciemment, alors qu'en fait, à la fin, ce qui reste sur le long terme, c'est leur lecture du passé. C'est un autre exemple. Par exemple, alors c'est un autre auteur des Forges, mais Gilles Marchand, quand il écrit ses romans, il me dit ça fait presque 20 ans qu'il n'a pas lu Boris Vian, mais comme c'était sa grande lecture de 20 à 24 ans, il n'arrive pas à se débarrasser complètement de tout cet imaginaire vianesque. Et voilà. Bon, après, ça c'est peut-être un peu différent parce que c'est des strates de lecture qui sont étalées sur 20 ans, en fait, qu'on trouve dans ton roman. C'est vrai que ce qui est intéressant quand on travaille avec des auteurs aussi, c'est qu'ils vous font lire des textes, en fait, qu'ils vous font lire ou relire des textes. Donc ça, c'est... Alors, j'ai toute une liste de choses à lire qui sont des recommandations de Claire que je n'ai toujours pas lues. Donc voilà, par exemple, toujours pas lu Nina Allen, mais c'est au programme, c'est au programme. Donc Nina Allen qui est publiée en France chez Tristram.
Tristram.
Voilà. Mais non, j'ai lu des textes. C'est toi qui as édité Shangri-La.
De Malcolm Knox.
Voilà. Donc, j'ai lu récemment un des romans qui est un des piliers du catalogue d'Asphalt, qui s'appelle Shangri-La de Malcolm Knox, et qui est un roman australien, c'est ça? Et que, enfin, après, c'est vrai que je projette et je me dis, il y a des points communs entre le monde de Shangri-La et le monde d'un long voyage. Donc, est-ce que toi, tu vois des points communs ou non?
Pas spécialement entre Shangri-La et un long voyage, quoi. Mais peut-être d'autres titres Asphalt, effectivement.
Bah, c'est quel titre Asphalt qui t'a
marqué? Je sais pas. Enfin, comme c'était de l'inconscient, je saurais pas te dire, mais je pense qu'effectivement, oui, il y a quelques probablement des résidus d'ouvrages sur lesquels j'ai travaillé qu'on peut retrouver dans Un long voyage.
Un long voyage, tu as mis combien de temps à l'écrire?
Alors, ça fait très longtemps qu'il me trotte dans la tête, mais je l'ai écrit au retour d'un voyage à Madère et ça m'a pris 4 mois. Mais j'ai fait vraiment que ça. C'est,
En fait, ça a mûri longtemps avant.
Ça a mis du temps à mûrir, effectivement. J'avais un peu commencé quelques chapitres, des choses comme ça, mais j'avais pas poussé au bout parce que ça ne me convenait pas. Mais effectivement, ce voyage-là avait débloqué quelque chose et m'avait permis de vraiment avancer. L'île de Madère m'a un peu inspiré la province de Chambéry avec ses canaux qui circulent dans la montagne, son côté très vert. Donc voilà, il y a quelques petits souvenirs de voyage qui traînent.
Et c'était le premier travail d'écriture ou...
Je travaillais aussi sur autre chose, un projet d'un peu plus longue haleine qui viendra après.
Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est le chant de la langue.
Ah oui.
Ah oui.
Oui, pour moi, c'était important de parler de ces... Enfin, dans un monde imaginaire, d'aborder ce sujet-là, le sujet des langues qu'on parle, des langues de pouvoir, des langues de l'intime. Effectivement, comme ça se passe dans un empire où il y a plusieurs provinces, donc du coup, il y a plusieurs peuples qui se côtoient, et chacun a sa langue, et le fait d'utiliser telle langue ou telle langue a forcément un sens, en fait, dans ces relations, en fait, dans ces interactions. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai bien aimé développer, surtout que ça me permettait aussi d'appuyer certains points de l'intrigue, en fait.
Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est aussi un roman qui métaphorise beaucoup de choses, c'est-à-dire c'est un roman où c'est de l'imaginaire, mais qui fait toujours revenir vers le monde réel d'une certaine façon, mais... moi, parfois, je me demandais, est-ce que, en fait, elle nous parle de ce truc imaginaire, mais elle veut parler de ça dans le monde réel. Et je me demandais si c'était volontaire, mais par exemple, moi, en lisant sur les langues, je me disais, ah là là, d'un côté, c'est complètement imaginaire, d'un autre côté, ça parle de problématiques qu'on a à l'échelle de l'Union, des choses comme les Catalans contre les Castillans, ce type de choses. C'était des choses que tu avais en tête, ou c'est vraiment nous qui projetons dessus?
Bah, il y a forcément cette accroche au réel qui existe de toute façon. En inventant ce genre de système, on a forcément des exemples réels en tête qui viennent, quoi. Ça vient jamais complètement de nulle part, quoi. Après, moi, je suis issue d'une famille monolingue, j'ai aucune histoire familiale par rapport à ça, en fait. Mais c'est sûr que... Enfin, c'est juste qu'effectivement, c'est un truc qui me plaît beaucoup. J'ai fait de la sociolinguistique à l'université il y a très longtemps. Et ça a toujours été des sujets qui m'intéressaient beaucoup.
Alors, comment vous avez choisi les noms des différents personnages? Parce que ils sont goulayants,
il y en a. Ça dépend, en réfléchissant beaucoup surtout sur la sonorité et sur l'idée que ça pouvait donner du genre, de la province dont ils venaient, ou des choses comme ça. Quoi. Donc, y a le côté les habitants de l'archipel, ils ont comme nom tous un nom commun en fait, qui devient leur nom, qui est une espèce de caractéristique. Donc le personnage principal, le narrateur, c'est Yes par exemple. Il y a aussi Courage, Prouesse, enfin il y a d'autres noms comme ça. Donc pour moi, ça me permettait de caractériser les insulaires aussi, cette façon de se nommer. Après, effectivement, dans les différentes provinces de l'Empire, pour Solmery, la province où se passe l'essentiel du roman, les noms sont d'inspiration Europe centrale, Europe du Sud, quoi, à peu près. Donc, voilà. en essayant un peu de les moduler pour que...
Oui, c'est pas des copies, c'est de l'invention complète.
Oui, en général, je change toujours un peu. Bon, je pense qu'il y a certainement des prénoms qui existent vraiment dans le lot, quoi. Mais,
C'est rigolo.
Excusez-moi, est-ce que vous avez des rituels d'écriture est-ce que vous êtes insomniaque, par exemple
Non.
Écrire la nuit
Non, par contre, je préfère écrire le soir, en fait. En journée, j'ai un peu du mal, parce que j'ai un travail du jour qui me prend pas mal de temps. Donc, en fait, il n'y a vraiment que le soir que j'arrive à écrire à peu près sereinement, une fois que la journée est vraiment passée et que mon travail du jour est fait.
Oui, je ne savais pas du tout que vous étiez éditrice aussi. Vous avez commencé à écrire ou vous avez commencé à éditer?
Par quoi j'ai commencé? J'écrivais un peu quand j'étais ado, mais c'était pas très très sérieux, quoi. Donc en fait, j'ai commencé par être éditrice, en fait. Voilà, et ça fait à peu près 16-17 ans que je suis éditrice, en fait. J'ai fondé ma maison d'édition il y a 10 ans, donc il y a vraiment, ça fait 10 ans que j'ai un peu la tête dans le guidon. Et effectivement, il y a 2 ans, je me suis dit que j'allais un peu me laisser un peu l'opportunité de me remettre, on va dire, à l'écriture et de le faire de façon un peu plus posée et sérieuse. Mais à la base, oui, je suis plus une éditrice qui écrit que quelqu'un qui écrit et qui a été...
Je ne demandais pas ça pour ça.
Non, mais...
Je demandais pour savoir vraiment si vous avez tiré une richesse de ce que vous avez écrit en plus de votre univers.
Je pense, oui. Alors après, c'est difficile à dire parce que ce que j'écris, c'est très différent de ce que j'édite. Et puis surtout, c'est difficile pour moi de savoir comment j'écrirais si j'étais pas éditrice. C'est difficile. Mais je pense qu'effectivement, il y a l'approche très technique du texte qu'on peut avoir quand on est éditeur qui m'influence dans mon écriture. Je réécris continuellement ce que j'écris, en fait. Et effectivement, c'est une façon très, très éditoriale d'écrire. Je ne sais pas. Effectivement, c'est peut-être lié.
Pour celles et ceux que ça intéresse, je crois que dans une des éditions de Beloved de Toni Morrison, dans une des dernières éditions, il y a une préface de Toni Morrison, donc prix Nobel 93, je crois, donc romancière américaine, qui explique qu'elle a été éditrice pendant presque 15 ans avant de commencer à écrire, et elle détaille un peu ce que ça lui a appris, en fait. Alors, elle était éditrice au sens américain de editor, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille vraiment sur le texte, c'est pas quelqu'un qui est publisher, c'est-à-dire qui publie, elle était vraiment, elle se coltinait des textes. Et elle disait qu'au bout d'un moment, en fait, à force d'avoir trop travaillé sur les autres, elle avait besoin, elle, d'écrire parce qu'elle elle supportait plus d'être au service des autres. Mais, voilà. Ça, c'était... Mais après, elle disait à quel point, c'est vrai que ça lui avait, en essayant d'aider d'autres auteurs à comprendre leur voix, ça l'aidait, elle, à comprendre sa voix propre. Et effectivement, Toni Morrison avait une voix très particulière.
Bon, c'est un bon pronostic, hein.
Ça me paraît plutôt pas mal. En tout cas, j'ai plutôt envie de continuer à travailler avec mes auteurs. Ouais.
Et du coup, Zara, tu arrives à résister à l'impulsion de te mêler de l'édition de ton propre texte. C'est assez dissocié. Quand ça arrive,
je parle sous le contrôle de mon éditeur. c'est dit un peu les choses au clair avec David au début. Je lui dis si jamais tu as l'impression que je m'immisce trop, tu me le dis. Après, voilà, pour travailler aussi avec des auteurs français, je sais aussi qu'est-ce qu'ils partagent avec eux, qu'est-ce qui n'est pas de leur ressort, qu'est-ce qui est. Mais effectivement, je pense que. Comme on a tendance à parler boutique aussi quand on se retrouve pour travailler, forcément des fois ça déborde un petit peu quoi, mais voilà, j'essaie de pas être trop intrusive, je sais pas si je vais
venir. Attends, je vais juste couper le téléphone, on enregistre cette partie-là. Non, en fait, moi la manière dont je l'ai vécu, c'est que parfois, je pense qu'une des difficultés dans l'édition, c'est qu'il y a plein de raisons qui font que la position des auteurs-autrices et la position des éditeurs-éditrices, c'est des positions qui sont asymétriques. Parce que nous, en tant qu'éditeurs, on va faire chaque année 10, 20, 30 livres, et l'auteur ou l'autrice va en faire un tous les ans au maximum, tous les 2 ans, 3 ans, certains tous les 5 ans. Et donc on a un investissement psychologique qui part simplement par le fait que le temps... peut pas être multiplié à l'infini, qui est asymétrique, et donc c'est source de multiples tensions, voilà. Et je pense que, peut-être parce que tu es éditrice, tu comprenais en fait ce qui était important pour moi. Et voilà, c'est-à-dire parce que, en fait, tu ne voulais pas être une autrice pénible. Voilà. Donc, voilà. Mais c'était pas gagné parce que souvent, en fait, ce qui m'a toujours étonné quand je publie des gens que j'avais déjà croisés d'autres façons, c'est qu'en fait, l'écriture, c'est tellement personnel, pour presque tout le monde, ça reste personnel, que les gens ont toujours une forme de vulnérabilité quand ils sont dans l'écriture. Et je connais des gens qui ont des métiers avec beaucoup de responsabilités, ils sont très sérieux, et on se dit, quand j'ai commencé à travailler avec eux, ça va être simple, parce qu'ils sont carrés, comme ça. Et en fait, tout se brise d'un seul coup, et on découvre qu'ils sont... Et à l'inverse, il y en a qui... Alexandra Kochelik, par exemple, dont il y a peut-être un... Non, il y en a peut-être plus... Là, voilà. Qui avait été reçue ici l'an dernier. En fait, elle est extrêmement carrée aussi dans le travail éditorial. Je pense qu'en plus, c'est les deux autrices que j'ai publiées cette année. Et c'était très agréable à chaque fois d'être face à quelqu'un où, en fait, on se concentre uniquement sur le texte. On est... dans une relation de collaboration assez équitable qui se passe très bien. Mais cela dit, moi je suis partie des éditeurs qui ont beaucoup de chance, c'est-à-dire j'ai que des auteurs, autrices sympathiques et faciles. Enfin, du moins sur la partie travail. Voilà. On va pas raconter le reste, mais sur la partie travail, j'ai jamais eu de très très grands obstacles à franchir. Voilà. Mais peut-être que, effectivement, je ne sais pas si toi, tu as eu des expériences traumatiques en tant qu'éditrice, mais tu n'as pas été une autrice traumatisante. Voilà.
J'ai travaillé avec mes éditeurs. Je crois que madame a une question. Il y a eu combien d'allers-retours
de correction, enfin, pour le manuscrit de la première fois et puis la version finale
À proprement parler, je dirais deux, en fait, non?
Oui.
Il y a eu le premier, on s'était eu toute une journée pour parler, ensuite j'ai fait les retours, et puis deux en fait.
Ouais. En fait, il faut quand même voir que le texte est arrivé, il était très très abouti. C'est assez rare que je reçoive des textes qui soient aussi près de leur achèvement. Moi j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup bougé entre le manuscrit et le texte final. Je ne sais pas si toi, ça t'as l'impression qu'il a bougé.
Mais surtout sur la première partie, c'est là où on a fait plus de modifications. Parce qu'effectivement, j'avais un peu de mal à rentrer dans le sujet, on va dire. Mais du coup, tu m'as un peu aidé à faire en sorte que ça aille plus droit au but, on va dire. Oui, c'était surtout dans la première partie. Ouais.
Mais le texte... Je pense que il y a parfois des auteurs, ça a été tellement dur pour eux d'aller au bout du premier jet qu'en fait ils veulent plus voir le texte ou leur texte et ils me balancent quelque chose qui fait 200 pages de trop sur 300 pages. Mais ils en sont plus ou moins conscients, c'est juste qu'ils ont un moment. Et là on peut rentrer par contre dans des phases d'aller-retour qui peuvent être assez longues. Mais c'est vrai que le travail éditorial sur ton texte a été assez simple et assez rapide. Puis on a eu de la chance, en fait, tout c'est le travail de couverture. Je crois que c'est la première couverture, en fait.
Oui, c'est super bien goupillé. Dès le premier projet, on savait que c'était le bon truc pour la couverture.
Voilà. Parce que...
Je suis tellement fière de cette couverture. Je suis tellement pour rien, je veux dire, mais j'ai beaucoup de chance. J'en suis vraiment très, très heureuse.
Non, mais alors la blague, c'est après coup. C'est-à-dire, il y a un truc, on dit souvent, l'auteur sait ce qu'il a écrit le jour où les lecteurs lui disent. La couverture, c'est un peu la même chose. Si on a fait cette couverture, on l'a trouvé super. C'est donc Elena Vieillard, qui est la graphiste des Forges depuis le début, qui nous a fait cette proposition. Elena n'avait pas eu la possibilité de lire le texte, donc je lui ai fait une vague description. Et en fait, c'est après coup que je me suis rendu compte que la couverture me faisait penser à une vieille couverture du Seigneur des Anneaux. Sauf qu'en fait, Elena m'a dit qu'elle n'a pas vu les films, elle n'a pas lu les romans, et que c'est vraiment pas son univers visuel. Et c'est un... Voilà, parce qu'il y a... C'est dans lequel des Seigneurs des Anneaux qu'il y a les deux statues. C'est dans le premier.
C'est la fin.
C'est la fin de la communauté de l'anneau, c'est ça?
C'est le retour du roi, c'est plutôt des illustrations qui représentent les havres gris, le port des elfes.
C'est ça, c'est ça.
Il y a une illustration, je crois, de Jono qui ressemble à ça, en
effet. Exactement. Et je me demande si initialement ça ne fait pas partie des dessins de Tolkien.
Il y avait la fiche du film avec les deux statues.
C'est ça. Ouais. Voilà.
Mm. Deux images qui se correspondent dans ces lumières.
Non, mais en fait, tout c'est fait assez simplement.
Oui.
Quoi.
Moi, j'ai vraiment lu, j'ai pas du tout un livre d'ado, mais un livre très mature et profondément philosophique. Je me demandais à quel point j'avais projeté mes propres références et favorites de grands philosophes, ou si c'était quelque chose qui faisait partie de
Non, j'ai pas une grande culture philosophique, donc. Mais je suis ravie que vous ayez trouvé ça.
Parce que enfin, moi, je suis en tant que grande fan de l'éthique de Spinoza, il pourrait presque y avoir un tampon approuvé par Spinoza. Ah,
ouais. Je sois dans le meilleur bandeau, franchement.
Non, c'est...
Merci. Moi, j'ai fait des études de philo et je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Il y a vraiment tout un truc sur persévérer dans sa nature, dans ce texte. Oui, oui, c'est très vrai.
Les modes parcourus par le même attribut infini, les villes qui sont aussi vivantes que les personnages, en fait, qui vivent tous avec cette connaissance de déterminisme, de la liberté, quoi, la quête de.
Non, mais effectivement, sur les villes vivantes, oui, ça c'était complètement voulu, le fait qu'il y ait à la fois la ville dans l'archipel et la ville en province qui s'est développée exactement de la même manière à un moment donné. Enfin, ouais, il y avait. Asphalt, on fait beaucoup ce qu'on appelle de la littérature urbaine, j'aime beaucoup quand les villes sont un personnage, sont des entités un peu vivantes, donc effectivement, ça se voit dans Un long voyage, je pense.
Ah, moi, en travaillant avec des auteurs, je suis souvent étonné du fait qu'ils aient des intuitions géniales dont je me dis ça c'est parce qu'ils ont lu ça, et en fait lors de la discussion je me rends compte qu'ils ne l'ont pas lu, c'est juste ils font les choses très très intuitivement, mais voilà, par exemple bon, Claire elle est très modeste, dit qu'elle n'a pas de culture philosophique, mais quand on parle politique elle conceptualise politiquement, voilà, c'est tout. Tout ça pour dire que effectivement les choses sont dans le texte, mais le mode de découverte est pas nécessairement un mode de découverte intellectuelle, mais ce qui fait qu'il y a quelque chose de plus naturel et d'organique dans la manière dont ça remonte. Parce que parfois, quand on écrit à partir d'une idée, c'est-à-dire alors il y a des gens qui arrivent à le faire, mais si on part de l'idée pour aller vers quelque chose de sensible, c'est un processus qui est assez difficile en fait, alors que souvent aller partir de ce qu'on ressent et de le conceptualiser, parce que juste écrire ça impose une sorte de d'organisation en fait, on arrive à une justesse qu'il n'y a pas toujours quand on est dans la construction purement intellectuelle.
Je confirme qu'effectivement, c'est souvent au fur et à mesure de l'écriture qu'on se dit, ah mais oui, effectivement, là, je pourrais faire un parallélisme avec telle autre scène qui va arriver plus tard. Enfin, on ne part pas forcément de la structure finale pour arriver au texte, mais ça va plus dans le sens parfois. Je ne suis pas non plus du genre à tout écrire au fil de la plume. Moi, j'ai toujours quand même un cadre, une vague structure, mais il y a quand même des choses importantes dans l'intrigue qui prennent sens au fur et à mesure de l'écriture, en fait. Donc, je
ne
sais pas si c'est...
Oui, c'est ça. Moi, c'est même... Alors, toi, c'est particulier parce que j'ai reçu ton manuscrit, mais il y a des auteurs des Forges que... Alors, les Forges, c'est une maison d'auteurs et d'autrices. Ça veut dire que quand les gens rentrent, ils rentrent pour plusieurs titres. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, de savoir si les gens ont d'autres titres en eux. Et donc, il y a des auteurs qui vont me dire « j'ai envie d'écrire là-dessus ». Et ils vont me raconter, c'est-à-dire, chaque fois que je les ai au téléphone, ils me disent « ah, j'en suis là, j'aimerais parler de ça, ça, ça ». Et en fait, on se rend compte que parfois, ils ont une idée de départ, mais que souvent, il y a une expérience dans l'écriture qui fait que le texte bifurque, finalement. Il y a très peu d'auteurs des Forges. En fait, je pense qu'il n'y en a qu'un qui, est capable de visualiser en termes de plan et d'exécuter un plan. La plupart, en fait, le font de manière plus ou moins organique et désorganisée. Et il y a une sorte d'expérience de l'écriture, c'est-à-dire au moment où on découvre dans l'écriture des choses qu'on n'avait pas prévues. Où parfois on découvre après l'avoir écrit qu'on était en train d'écrire ça, donc après ils rafistolent parce que ils ont compris ce qu'ils voulaient dire après l'avoir dit, tout simplement. Mais
c'est aussi la raison pour laquelle je réécris toujours au fur et à mesure, soit par chapitre après chapitre, puis partie après partie, puis au bout d'un moment les choses s'affinent au fur et à mesure de l'écriture, même si on sait au début où on va, même si on a un grand cadre, quoi.
Non, mais cela dit, non, rafistoler, c'était pas le bon terme. Hein. C'est on recentre, on va. Mais par contre, je voudrais revenir sur quelque chose, c'est une discussion qu'on n'a jamais eue. C'est-à-dire, tu disais que le voyage à Madère, ça a déclenché l'écriture, mais tu avais quand même écrit quelques pages auparavant.
Oui.
Et c'était quoi l'idée initiale avant Madère ?
Non, c'était déjà la même idée initiale, mais en fait, ce que j'avais écrit, c'était une version encore plus longue de la première partie, où j'allais trop dans les détails, mais c'était les aventures de Lies Enfant, en fait. Et en fait, c'était pas ça que j'avais écrit. J'étais partie dans un roman de fantasy typique qui aurait pu avoir son intérêt, mais qui aurait été complètement différent, et puis c'était pas ce que moi j'avais envie d'exprimer, en fait. Donc là, j'ai dû un peu trier sur qu'est-ce qui était important, sur narrativement, comment on fait passer le temps, comment on écrit l'enfance d'un personnage sans s'attarder sur chaque ligne. Mais voilà, en même temps, c'est des questions intéressantes en termes de narration, donc c'est bien d'avoir pu se les poser et d'avoir aussi à choper sur ces problèmes-là, parce que ça m'a aidé aussi pour la suite, quoi. Où on a des périodes, dans un long voyage, le temps se déroule pas de la même manière d'un chapitre à l'autre, en fait. Le temps se déroule très vite au début, à la fin, et en fait, on a un ralentissement sur une scène particulière qui est le pivot du roman. Et voilà, ça, c'est des choses, pareil, qui se sont un peu, qui faisaient partie de la structure de base. Et en commençant, je me suis rendu compte qu'en termes de rythme, ça n'allait pas, et que je m'attardais trop sur un événement, sur des passages de la vie de Liès qui devaient être survolés plus vite, justement pour mettre en valeur le fait que le centre du roman serait le vrai pivot, en fait. Ouais, c'est un rééquilibrage. C'est très technique, je ne sais pas si c'est
non,
intéressant, mais...
sans avoir le livre, on comprend.
Oui, c'est une idée assez classique, finalement, que dans l'expression élégante, il faut alterner les phrases courtes, les phrases longues, la lenteur et l'accélération pour juste... accentuer certaines choses. Mais alors, je vais pas te lâcher là-dessus. Et Madère, ça a déclenché quoi ?
Madère, bah, c'était le fait de voir l'endroit, de... j'avais des vagues idées de... je voyais un peu Solmery, donc la province, notamment la Redoute Rouge, qui est sur une île à Capri. Ouais. Mais le fait, de voir Madère, ça m'a un peu aidé. Alors qu'en fait, Solmery n'est pas Madère non plus, parce que Madère est une île au milieu de l'océan, alors que Solmery est au bord d'un fleuve. Mais je ne saurais pas expliquer ça. Parfois, il n'y a pas de raison, ça débloque les choses. Et peut-être aussi que je revenais d'une semaine de vacances, j'avais l'esprit plus tranquille et serein. Ça tient à ça, des fois. C'est trop longtemps que je n'étais pas partie en vacances. J'ai peut-être besoin de ça, en fait.
Ah, parce que depuis tout à l'heure, j'ai quelque chose qui me trotte en tête. Parce que tout à l'heure, on parlait de ce qu'on projetait sur les livres. Et en fait, très vite, quand le livre est sorti, il y a des lecteurs, lectrices qui nous ont dit « Ah, ça nous fait penser à Ursula Le Guin, qui est une romancière américaine qui est décédée il y a 2 ans maintenant. » Et moi, je dis « Ah oui, c'est tellement du Ursula Le Guin. » Et en fait, tu me dis que tu n'en as pas beaucoup lu, c'est ça ?
Je n'en ai pas beaucoup lu et ça ne m'a pas marqué autant que
donc
toi, ça t'a marqué.
C'était une projection, voilà. Mais Le Guin, par exemple, elle disait qu'elle rumine très très longtemps, elle ruminait très longtemps ses idées. Elle avait une situation de départ généralement en tête, mais elle n'avait pas de message ou de construction en tête. Et c'est quand elle avait les personnages qu'elle se lançait dans l'écriture. Donc toi, c'est quel moment où... Tu sens que tu n'y vas.
C'est dur, tes questions.
Non, mais...
Waouh.
Elles n'ont pas du tout été préparées, donc la souffrance que vous voyez là, c'est une souffrance sincère et réelle.
C'est une répétition pour les prochaines.
Voilà. Voilà. Je rappelle que c'est ma première dérangée en librairie, là, j'apprends encore. Non, je ne saurais pas te dire, je pense qu'effectivement j'avais cette idée, ou alors je pense que je suis partie de quelque chose qu'on ne peut pas révéler, qui est la résolution d'un mystère du roman, en fait. Et que j'ai brodé à partir de ça, que j'ai créé les personnages à partir de ça. Ça repose beaucoup sur les personnages, c'est-à-dire que le monde, je l'ai créé en fonction des personnages et pas l'inverse. Mmh. J'ai pas d'abord créé le monde pour mettre mes personnages dedans, je suis vraiment partie de l'intrigue et des personnages, et j'ai créé le monde autour pour que ce soit cohérent, que ça colle. Mais effectivement, je pense que le déclencheur à la base, c'était le fameux événement dont on ne peut pas parler, qui est pivot dans le roman et qui était, on va dire, une gymnastique de l'esprit qui m'intéressait, en fait. Mmh. Je me suis dit, ce serait pas mal d'avoir une intrigue qui tourne autour de ce genre de mécanisme. Voilà.
Bravo, c'est bien.
Voilà, si vous l'avez pas encore lu,
le problème, c'est qu'on peut vraiment pas en dire plus sans dévoiler vraiment le clou du...
Ça donne envie de lire comme ça.
J'espère.
quelqu'un a des questions. Non. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de vous passer à la partie signature et de prendre vraiment le temps d'échanger. Du coup, Claire va se rapprocher de la table et puis vous pouvez vous asseoir à proximité si vous voulez continuer à discuter avec elle
pendant la.